Cet après-midi, j'aimerais parler d'un sujet qui est englobé dans d'autres sujets, parce qu'il y a trois mots en ce moment qui me taraudent, hein, que j'ai en tête. Ce sont les mots espérance, courage et patience. Espérance, courage et patience. J'ai parlé de l'espérance dimanche dernier, que nous avions une espérance, rappelez-vous, qui n'est pas terrestre, mais l'espérance, elle est en Christ, de façon ultime. Après, tout le reste, c'est en plus. On peut, en cherchant d'abord le royaume de Dieu, avoir des choses qui nous sont données par-dessus, mais, et c'est une lapalissade, tout ce qui est terrestre ne durera qu'un temps, par définition. Et donc, de penser à ça uniquement, c'est désespérant, puisque de toute façon, les choses s'arrêtent, la santé va s'arrêter, la vie va s'arrêter, des relations s'arrêtent, des espérances ne sont pas obtenues. Mais nous avons une espérance, nous, ultime, qui va au-delà de cela, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait la différence entre un chrétien et une personne où... Alors des fois, il y a des autres religions, hein, qui prêche l'espérance. Nous pensons que c'est une espérance qui peut être trompeuse, qu'il y a un seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Et en tout cas, ceux qui ne croient même pas en Dieu et qui vivent que pour cette existence-là, par définition, ils rentrent dans je dirais, dans une destinée qui est désespérante, parce qu'elle va s'arrêter. Nous savons que même la mort a été vaincue. Donc si la mort est vaincue, voilà, on a une victoire absolue. Donc l'espérance, le courage aussi et la patience. Donc j'ai parlé du courage un peu hier avec les hommes. Et juste un petit résumé pour que vous compreniez ce qui va suivre après. J'ai parlé de certains passages du Nouveau Testament. Alors j'ai étudié le mot courage uniquement dans le Nouveau Testament. Et on s'aperçoit qu'il y a trois mots différents en grec pour la traduction du mot courage en français. Et il y a des versets où c'est un mot qui parle d'être complètement abattu, c'est-à-dire, enfin, c'est quand on n'a pas de courage. Donc, quand c'est de façon négative, quand on a perdu courage, c'est être sans vigueur, complètement épuisé. Et l'inverse, évidemment, quand on a du courage, c'est qu'on a de la vigueur et qu'on a de la force. En Éphésiens 3:13, par exemple, il y en a plusieurs autres, mais j'en cite qu'un cet après-midi. Éphésiens 3:13, il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Parce que l'apôtre était persécuté, et il était persécuté, non pas parce qu'il faisait des bêtises ou parce qu'il avait essayé de profiter de certaines choses et il était discipliné pour ça. Non, il était persécuté parce qu'il servait le corps de Christ, il servait l'Église. Il annonçait l'évangile, il enseignait Christ alors que c'était interdit. Et donc les croyants et les églises, notamment l'église d'Éphèse, les croyants étaient parfois découragés d'apprendre des mauvaises nouvelles concernant la vie de l'apôtre Paul. Et donc Paul leur dit, ne perdez pas courage à cause de mes tribulations, c'est-à-dire ne perdez pas votre vigueur. Et c'est vrai que devant les situations de la vie, que ça soit, alors pour certains, oui, ça peut être un combat spirituel, mais pour d'autres, de façon plus terre à terre, je dirais, plus terrestre, l'éducation des enfants, la vie de couple, la vie au travail, etc. Quand on perd courage, souvent, on devient fatigué, c'est-à-dire qu'on perd de la vigueur. Et donc, c'est important de comprendre cela, c'est que avoir du courage, ça va avoir un impact positif sur notre vie spirituelle. C'est pas simplement jouer les machos et dire, ah, faut que j'aie du courage, tu sais, je suis un homme, je suis costaud. Oui, ok, on peut le voir dans ce sens-là, mais ça a d'autres implications. C'est-à-dire que le découragement peut même entraîner de la dépression, parfois. Et donc, très souvent, quand on perd courage, on perd donc cette vigueur, on est épuisé, ce qui fait qu'on ne fait plus ce que l'on devrait faire. On peut, par exemple, perdre courage dans la prière. On ne croit plus que la chose soit possible. On est découragé parce que soit plus on prie et plus on s'aperçoit que le sujet pour lequel on prie ne s'améliore pas. Je sais pas, moi, vous priez, mettons, pour la santé de quelqu'un, et puis la santé de cette personne continue de se détériorer. Donc on peut perdre courage, par exemple. On peut perdre courage parce qu'il y a une situation au travail qui devient de plus en plus difficile, alors qu'on prie pour cette situation depuis un moment. Et parce que ça s'intensifie, ben on perd courage. La prière était peut-être efficace jusqu'à un certain niveau, mais après, c'est plus possible, on n'y croit plus. Ce qui fait que le découragement engendre une faiblesse spirituelle et voire même physique, et donc un épuisement. Autre chose aussi que l'on voit dans, alors c'est un autre mot là en grec, écluo, c'est dans Hébreux 15, 5 par exemple. L'auteur dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Alors déjà là, il y a un point intéressant à noter, en dehors du mot grec qui est utilisé, c'est que dans le cadre là de cette épître et de ce chapitre en particulier, l'auteur part de la discipline de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut amener de la discipline dans notre vie, soit de façon régulière, c'est-à-dire qu'on a un mode de vie qui nous est imposé, qui est une forme d'éducation et de voire de châtiment, où Dieu nous coince quelque part. Ou des fois, ça peut être un châtiment plus ponctuel, plus peut-être plus fort, plus intense, et ça nous décourage parce qu'on associe à tort le châtiment comme un jugement, alors que nous savons, nous avons été jugés en Christ. Et donc aujourd'hui, c'est pas un jugement que Dieu nous donne, même si ça peut ressembler à un jugement. Non, c'est une correction. Le but, c'est de nous redresser, c'est dans le sens vraiment sémantique du terme, hein, c'est de faire en sorte que nous allions mieux spirituellement et que nous puissions ressembler un peu plus à Jésus-Christ. Mais l'œuvre de Dieu dans notre vie, parfois, parce que notre vie n'est pas ce que on aurait voulu qu'elle soit, et parce qu'on se rend bien compte qu'on a lutté contre le Seigneur et que lui résiste. N'oubliez pas que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc parfois on le sait par le Saint-Esprit que nous avons été orgueilleux, voire même nous le sommes encore. Mais l'étape d'après, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que dans un premier temps on est orgueilleux et puis après on est découragé. Vous voyez l'autre extrême. Et l'auteur dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ça me fait penser, vous savez, au ministère de Jésus lorsqu'il était sur la terre, à un moment donné, enfin, il n'y a pas qu'à un moment donné, il prêche et il dit les quatre vérités à ceux qui l'écoutent. Et à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup de disciples, des dizaines, qui le quittent et qui disent à Jésus, tes paroles sont dures à entendre. Et là, on voit que ces gens ont été découragés. Ils n'étaient pas que découragés d'ailleurs, hein, ils vivaient le Seigneur. Mais en tout cas, il y avait un découragement en disant, ben voilà, on est en train de le suivre, et puis on entend toujours ces paroles-là et on est découragé. C'est exactement ce qui se passe des fois quand on est dans une situation spirituelle où la croix vient dans notre vie et elle ne s'en va pas. Il y a une odeur de mort, hein, quand je dis mort, là, c'est la mort à nous-mêmes. Et on se décourage parce qu'on en a marre de cette situation-là. Et donc on perd là aussi notre vigueur spirituelle. Et là, le mot courage, quand il est utilisé avec une négation, hein, perdre courage ou ne pas avoir courage, ça peut vouloir dire se délier, se détacher de quelque chose. Et l'image spirituelle, c'est je suis attaché au Seigneur et parce que je perds courage, je me détache. En fait, on pourrait même utiliser le verbe je me liquéfie, voyez, je me dissous dans quelque chose, et ce qui fait que je disparais. Et évidemment, ce n'est pas la volonté de Dieu, et donc il faut avoir du courage, c'est-à-dire accepter la discipline du Seigneur. Des fois, accepter ce que la Bible dit, accepter ben, des fois certaines prédications où on est repris, accepter le ministère du Saint-Esprit dans notre vie, accepter qu'un frère ou une sœur nous reprenne, accepter que Dieu nous parle à travers des circonstances ou par le moyen du Saint-Esprit, où on est repris, mais ne pas se décourager. C'est de croire que le Seigneur veut le meilleur pour nous, que c'est pas un jugement contre nous, c'est un père, d'ailleurs dans l'épître l'auteur le dit, il est comme un père qui châtie son enfant. Et donc un enfant par définition est repris par ses parents. Ce qu'on reproche des fois à certains parents, c'est ne pas reprendre leurs enfants justement, de ne pas pratiquer une partie de l'éducation qui est parfois le châtiment. Et puis il y a un troisième mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du courage. Et à chaque fois, ce mot est utilisé quand Dieu est dans l'équation. Soit il est actif, soit il est parlé de lui dans le verset. Et on voit par exemple qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, c'est dans Actes 23, verset 11, hein, je vous lis le verset, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc, pourquoi Jésus apparaît à Paul et l'encourage? Parce que Paul est arrêté à Jérusalem, il va être présenté devant différents leaders, notamment le roi Agrippa, donc il va utiliser ces circonstances pour continuer d'évangéliser, même les personnes haut placées, mais à un moment donné, bah, son cas va être traité à Rome et on va l'emmener à Rome. Et Paul aurait pu être découragé, parce qu'il avait peut-être d'autres projets, il voulait peut-être retourner en Asie mineure, rester à Jérusalem, je n'en sais rien, et là on lui annonce que un, bon, bah, il est toujours prisonnier et qu'on va pas le relâcher. Et deux, on va l'envoyer à Rome, c'est-à-dire qu'on va l'envoyer dans la gueule du loup, carrément, puisque très souvent les Romains persécutent les chrétiens. Lui est citoyen romain, donc il est un peu protégé, mais néanmoins, c'est pas une situation qui est forcément enfin, qui est pas enthousiasmante. Deuxièmement, ils vont voyager pour aller à Rome, ça va prendre des semaines. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse parenthèse dans le ministère qu'il avait peut-être envisagé pour les prochaines semaines ou les prochains mois. On sait par la suite d'ailleurs que le voyage va être un peu, ne va pas être de tout repos. Le navire va couler, vous savez, près de l'île de Malte. Et puis après, il va se retrouver à Rome. Donc, il aurait pu être découragé. Donc, le Seigneur, qui connaît toutes choses, l'avertit et lui dit, prends courage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un autre mot. C'est Arceo, ça signifie avoir confiance. Donc là, c'est intéressant parce que contrairement aux deux autres mots où on a, ça parle de nous, notre vigueur ou pas, selon le courage qu'on a ou que nous n'avons pas, dans l'autre mot, je parlais d'être délié, d'être détaché de quelque chose, donc ça nous concerne. En revanche, là, le mot courage, c'est le courage, on va le chercher chez quelqu'un d'autre, c'est pas en nous-mêmes. Et on le voit, alors après, il y a plein d'autres versets que j'ai pas le temps maintenant parce que je veux passer à autre chose, de vous citer. Mais vous savez, tous les versets qu'on voit dans les Écritures, lorsque Jésus guérit quelqu'un, par exemple, il va guérir l'aveugle à Jéricho, il lui dit, prends courage. Enfin, ça, c'est les disciples qui disent à l'aveugle, prends courage, le maître t'appelle. Et donc, ça veut dire, aie confiance. Et c'est intéressant parce qu'on voit donc dans ce mot que le courage est attaché à la foi. C'est-à-dire que je ne peux pas garder du courage en moi ou en avoir si je compte que sur moi. Il ne faut pas se culpabiliser si parfois on est découragé. Ce qu'il faut, c'est analyser les choses. Est-ce que je suis découragé parce que je suis peut-être discipliné, comme on l'a vu dans l'épître aux Hébreux? Est-ce que je suis peut-être découragé parce que les circonstances de la vie ne sont pas ce qu'elles devraient être et où ce que je voudrais qu'elle soit, et ce qui fait que je suis incapable de changer les choses, bah, je suis découragé. Non, c'est à un moment donné de dire, j'ai confiance dans le Seigneur. Et parce que j'ai confiance dans le Seigneur, le courage va revenir. Et donc ça, c'est un point important, c'est que la foi va avoir un impact sur le courage que l'on aura, on le voit d'ailleurs, hein, quand Jésus, à la fin de son ministère, dit aux apôtres, que lui a eu des tribulations, mais eux auront aussi des tribulations. Il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez? Donc tout ça, ça nous montre que le courage est nécessaire dans la vie chrétienne. Et donc il faut aller vraiment être, enfin aller de l'avant. Et maintenant, j'aimerais parler plus en détail d'un autre passage. C'est dans Hébreux chapitre 6. On va lire les versets 17 à 20. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20, où l'apôtre, enfin oui, l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous dit ceci. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Donc immutabilité, on n'utilise plus beaucoup ce mot-là, mais en fait ça veut dire une alliance, une promesse perpétuelle, une promesse qui ne va pas être anéantie. Donc il dit pour montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc là, l'auteur, je rappelle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par définition, s'adresse aux Hébreux, mais ce sont des Hébreux qui sont devenus chrétiens. Il y a la persécution à l'époque contre les chrétiens, ce qui fait que ces chrétiens d'origine juive se disent, pour échapper à la persécution, on va arrêter de se réunir pour parler de Jésus-Christ, on va retourner dans les synagogues, voire au temple, pour ceux qui habitaient Jérusalem, parce que finalement, ça fait des siècles et des siècles que Dieu nous a demandé de faire un culte de cette manière-là, pourquoi ne pas continuer, et du coup, on serait protégé. Mais, et c'est là où l'auteur de l'Épître est assez clair, il leur dit ce qui était la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire aller au temple, sacrifier des animaux, être sous la loi de Moïse, etc., n'est plus valable puisque Jésus-Christ a accompli la loi. Donc maintenant, il faut tout simplement accepter le changement qui a eu lieu, ce qui fait que aller au temple, c'était la volonté de Dieu avant Jésus-Christ, maintenant ça n'est plus la volonté de Dieu, quand bien même vous êtes persécuté en tant que chrétien. Et donc, c'est pour ça que dans l'Épître, l'auteur va dire « n'abandonnez pas le rassemblement de vous-même », c'est-à-dire vous-même, les Juifs devenus chrétiens. Et qu'est-ce qui faisait que ces chrétiens d'origine juive étaient découragés? Ils avaient entendu la bonne nouvelle, peut-être même ils avaient été témoins du ministère de Jésus-Christ à Jérusalem, puis ensuite, après la Pentecôte, ils se sont convertis, et ils sont rentrés dans le découragement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'auteur de l'Épître va aussi parler des choses qui sont arrivées en Israël dans le passé, c'est que ce ne serait pas la première fois que cette chose-là arrive. Rappelez-vous, lorsque ils ont été délivrés d'Égypte et qu'ils arrivent dans le pays de la terre promise, ils se mettent à douter, ils sont découragés parce qu'ils voient des géants. Donc on voit que dans l'histoire d'Israël ou dans l'histoire de certains juifs dans l'Ancien Testament, le découragement arrivait très facilement. Pourquoi? Parce qu'ils doutaient de Dieu et donc ils n'avaient plus confiance en Dieu. S'agissant de l'entrée en Canaan, Josué et Caleb, eux, ont un autre discours en disant « Mais si Dieu nous a donné le territoire, on n'a qu'à y aller, peu importe si les géants sont là ou pas, de toute façon, Dieu nous le donnera. » Donc lui, eux, les deux, là, continuaient d'avoir confiance et donc d'avoir du courage, alors que les autres ne l'avaient plus. Et on voit, c'est pour ça que j'associe ces mots « espérance »,« courage » et « patience », c'est que parfois le courage, ça ne veut pas dire faire quelque chose tout de suite, c'est aussi savoir attendre, le courage. Le courage de savoir attendre. Des fois, il faut être courageux dans l'action, mais parfois, il faut être courageux dans l'inaction. Ça dépend des circonstances. Et s'agissant des Hébreux, là, dans Hébreux 6, pourquoi l'auteur fait référence à cette promesse qui a été faite par des choses immuables et il parle d'immutabilité de sa résolution? C'est parce qu'il a fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob concernant la terre promise. Et cette terre promise, ils ne l'ont pas eue. Ils ont marché sur cette terre, mais ils n'ont pas pris possession de cette terre. Le peuple, les descendants d'Abraham, vont prendre possession de Canaan plus de 400 ans après. Et donc, ces croyants, comment ils ont gardé le cap? En s'appuyant sur la promesse que Dieu avait faite. C'est-à-dire une promesse qui va au-delà du temps, au-delà de leur propre existence. Et comme il ne peut pas, vous savez, quand on n'a plus à jurer, nous, maintenant, en tant que chrétiens, mais vous savez, quand les gens jurent, on leur demande de jurer sur quelque chose de plus élevé qu'eux. On va pas dire « jure sur la tête de ta concierge », on va dire « jure sur la tête de ta mère ». Vous voyez, c'est quelqu'un de supérieur à chaque fois. Dans certains pays comme les États-Unis, tu jures sur la Bible ou tu jures sur Dieu. Mais Dieu lui-même, il peut pas jurer sur plus élevé que lui. Donc il a juré par lui-même, parce qu'il ne pouvait pas faire plus. Et donc c'est pour ça qu'il est dit qu'il a fait une promesse par un serment pour montrer cette résolution. Et une fois qu'il a fait ça, il dit dans lesquels il est impossible que Dieu mente, c'est-à-dire qu'il a juré par lui-même, mais de toute façon lui ne peut pas mentir par nature, nous trouvions un puissant encouragement. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que c'est en Dieu que nous avons ce puissant encouragement. Et là, les auteurs, alors les, pardon, les lecteurs de l'épître qui étaient persécutés, qui doutaient peut-être de la fidélité de Dieu, ils devaient se souvenir de l'alliance faite par Jésus en son sang, afin de trouver un puissant encouragement. C'est pas dans la vie des fois qu'on aura un encouragement. Vous le savez, mais je vous le redis cet après-midi. C'est pas forcément dans votre propre existence ou en vous-même que vous trouverez un encouragement. Malheureusement, on aimerait, mais parfois c'est le cas, parfois la situation s'améliore, parfois on prend une décision qui change tout, parfois il y a des jours où on est, vous savez, on dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans, ben, il y a des fois, il y a des jours avec, on est content. Oui, mais il y a des jours, on est tellement à plat qu'on va se dire, mais où je vais trouver un encouragement? Ben, l'encouragement, on l'aura dans les promesses du Seigneur. Voilà, le Seigneur est là, mais ça ne veut pas dire que la promesse va s'accomplir tout de suite. Ça ne veut pas dire que les choses vont changer tout de suite. Comment ils ont trouvé, les patriarches, un encouragement alors que la terre promise, ils ne l'ont pas eu, ils sont même morts sans avoir vu la terre, enfin, posséder la terre promise. Donc qu'est-ce qui a pu les encourager? Qu'est-ce qui a pu encourager Abraham, Isaac et Jacob? Puis après Joseph et tous les patriarches. C'est le serment qui a été fait en Dieu. C'est devenu pour eux un puissant encouragement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a presque une contradiction. Alors, je vais lire après le verset dans une autre traduction en français, mais en second, c'est intéressant. Au verset 18, il dit, nous trouvions un puissant encouragement, donc dans la promesse que Dieu a faite au nom de lui-même, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et Darby traduit d'une autre façon, il dit, afin que nous ayons une ferme consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance. Donc c'est intéressant parce que pour nous, quand on imagine le courage, on se dit, bah, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui s'enfuit pas. Mais là, dans la version de Darby, et il y a cette notion-là en hébreu, c'est vrai, alors Segond, lui, n'a pas traduit de façon aussi forte cette idée-là, mais dans ce verset-là, il faut que nous nous enfuyions pour trouver le refuge qui est la consolation du Seigneur. Donc le courage, c'est fuir soi-même, en fait. C'est fuir une marche par la vue, fuir le constat que l'on peut faire devant certaines circonstances, mais de se réfugier en Dieu. Donc Darby dit, nous ayons, afin que nous ayons une ferme consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée. C'est-à-dire que Dieu nous propose une espérance, mais elle est en lui. Elle n'est pas forcément dans notre vie pour l'instant. Ça peut, bien sûr, qu'il y a des réponses aux prières, il y a des choses qui s'améliorent dans notre existence, et on remercie le Seigneur pour ça, mais ce n'est pas toujours le cas, et ça ne veut pas dire pour autant que Dieu nous a abandonnés. Et donc, le puissant encouragement que ces lecteurs-là devaient avoir, c'est de se dire, attends, nous sommes persécutés, certes, mais Christ est mort pour nous, et il a fait une alliance, et peu importe notre situation, nous continuons d'avoir confiance. Et parce qu'ils devaient continuer d'avoir confiance, de placer cette confiance en Dieu, ça leur permettait alors de traverser les épreuves d'une manière spirituelle. On a cette image-là, vous savez, j'aime beaucoup, moi, dans le livre de Daniel, le passage où les trois amis de Daniel vont être tués, enfin parce que ils n'ont pas voulu adorer et pratiquer l'idolâtrie à Babylone, et donc l'empereur les condamne, et ils vont dans une fournaise ardente. Et le but, en fait, c'est de leur faire peur pour qu'ils se mettent à adorer quelque chose ou quelqu'un autre que Dieu lui-même. Et les amis de Daniel disent, mais que nous vivions ou que nous mourions, de toute façon, on a confiance dans l'Éternel. Vous voyez, c'est-à-dire que ces gens-là avaient du courage. Peut-être que la situation, et c'est sûr même qu'elle était, elle n'était pas agréable à vivre, mais ils avaient du courage. Et ils acceptaient de livrer leur vie au service de Dieu. Et c'est ça glorifier Dieu, en fait. C'est ça manifester le parfum de la vie éternelle, le parfum de Jésus-Christ. La vie par la foi, c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Oui, merci Seigneur, bah oui, merci parce que mon salaire a doublé, merci parce que j'ai hérité, merci parce que je suis en bonne santé, merci, j'ai confiance en toi, Seigneur, regarde, tout va bien, j'ai une nouvelle voiture. Ouais, bah, voyez, c'est, oui, on a la foi. Mais avoir confiance en quelqu'un alors que tout porte à croire le contraire, ça montre le lien qu'on a avec cette personne. Je compare souvent, moi, vous savez, un témoignage qu'on entend des fois sur une personne, on nous dit, ah, cette personne-là, elle a fait ci, elle a fait ça, et nous, on dit, non, non, c'est pas possible, je la connais, c'est pas possible. On garde notre confiance, malgré les témoignages que l'on peut entendre. On croit que ce sont des mensonges. Et parfois, c'est le cas, ce sont des mensonges. Et donc, la relation est tellement vraie et limpide avec une autre personne, c'est que tout ce qu'on peut dire de mensonger sur elle, on va pas le croire, on continue d'avoir confiance. Ou alors, on va commencer à avoir confiance dans ce qu'on entend, dans ses calomnies, dans ses commérages. Et bien, c'est un peu la même chose avec dans notre relation avec Dieu, c'est-à-dire que parfois, dans la vie terrestre, tout porte à croire parfois que Dieu nous aime pas. Comment se fait-il qu'il permet ça dans ma vie? Comment se fait-il que voilà, la situation ne change pas? Comment se fait-il? Et la vie chrétienne consiste à garder notre confiance en Dieu, et cette confiance en Dieu nous permet d'avoir du courage, ce qui fait que parce que nous recevons le courage qui vient de Dieu, nous continuons d'espérer, et parce que nous espérons, nous devenons patients. Voyez la chaîne là, c'est j'ai confiance en Dieu, ça produit du courage en moi, ce qui fait qu'à un moment donné, j'espère de plus en plus, et quand quelqu'un espère, il patiente. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui espère, il est sûr qu'il va avoir la chose. Donc ça lui permet de patienter. Ce qui nous rend impatients et ce qui nous décourage et ce qui nous désespère, c'est quand on dit, bah, de toute façon, je l'aurai pas. Donc c'est pas la peine. J'arrête. Je donnais l'image hier quand je parlais du courage dans l'étude biblique pour les hommes. C'est un peu comme en foot, vous savez. C'est un peu une image un peu d'Épinal. Enfin, c'est un peu un cliché, mais c'est en partie vrai, je trouve. Mais il y avait une expression où on disait, vous savez, le football, c'est un sport qui se joue avec deux équipes de 11 personnes dans chaque équipe, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc voilà, c'était un peu une expression qui était donnée à une époque. Et pourquoi? Parce que les Allemands étaient connus en foot, mais aussi dans d'autres sports, c'est qu'ils ne perdent pas courage. Ce qui fait qu'il reste 5 minutes à jouer. Évidemment, s'il y a 5 buts d'écart, n'en parlons pas. Mais quand il n'y a qu'un seul but ou même 2 d'écart, ils vont jouer pour essayer de gagner, même s'ils sont en train de perdre. Alors que d'autres équipes ne jouent plus parce que bon, on a perdu, ils ont perdu courage. Eh bien, c'est un peu ça, la vie chrétienne. C'est qu'à un moment donné, nous savons qu'on va rentrer dans l'éternité. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce qu'on est peut-être à 5 minutes de la fin de quelque chose, ah ben ça marchera plus. Eh non, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Et ne cherche pas ce courage en toi. Des fois, on peut abandonner en disant, mais ah, mes enfants, je les éduque de telle manière, et je vois que ça marche pas, ça sert à rien. La question, c'est pas de savoir si ça marche ou pas. La question, c'est de savoir si ce que tu leur enseignes ou l'éducation que tu leur donnes est bonne. C'est ça qui compte. On sème et on verra bien quand est-ce que ça va porter du fruit. Et donc, il faut garder courage, faut persévérer. Après, il se peut que dans notre manière dont on éduque, même si sur le fond on a raison, peut-être qu'il y a des choses à changer dans notre communication, je dirais dans l'habillage. Mais si le fond est vrai, si c'est la volonté de Dieu, ce que vous inculquez à vos enfants, il faut pas perdre courage, même si vous avez l'impression que ça marche pas. De la même manière, dans un couple, moi, combien de couples m'ont dit, ah ouais, mais ça fait tant de temps, on a essayé. Bah, essayez encore. Parce que, est-ce que vous avez une autre solution? Bah, la plupart du temps, c'est non. D'accord? Ou alors, c'est le divorce. Ou alors c'est les cris, les coups, des fois même malheureusement. Non, c'est de se dire, je persévère parce que voilà la vérité. Nous, on a un problème avec notre chair, avec nos faiblesses, notre passé peut-être. Et c'est vrai que ça marche pas du premier coup, mais on persévère. On prend courage, on a confiance dans le Seigneur, et ce qui fait qu'on commence à espérer. Et ça change complètement notre façon, pour reprendre un terme footballistique, notre façon de jouer, notre façon de marcher dans la vie. Honnêtement, autour de nous, moi, je vois combien de gens sont fatigués. Mais ils sont pas fatigués en dehors du fait qu'ils se couchent à 1 h du mat et à la limite quand ils sont dans leur lit, continuent de regarder leurs écrans. Donc bien entendu, ils sont fatigués. Ça, c'est pas une maladie, ça s'appelle de la fatigue. Voilà, faut se coucher plus tôt. Mais si c'est pas ce cas-là, les gens des fois sont fatigués parce qu'ils n'espèrent plus. Ils sont désespérés en fait. Alors là, en plus, il y a les élections, notre pays, qu'est-ce que ça va devenir et tout. Et donc ça amène une apathie où les gens ne se battent plus. Non, nous, nous gardons courage. On a confiance dans le Seigneur, peu importe la situation. Peut-être que je suis quelqu'un, alors ce qui n'est pas encore le cas pour nous aujourd'hui, mais comme dans l'Épître aux Hébreux, où les chrétiens sont persécutés, oui, mais on trouve un puissant encouragement dans les promesses de Dieu, et même on s'est enfui dans ces promesses. Vous voyez, on a couru vers la solution. Souvent, on se dit, ah, le courageux, c'est celui qui résiste, qui bouge pas. Non, 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 je suis faible, moi. Moi, je m'enfuis, mais je m'enfuis au bon endroit. Je m'enfuis dans la promesse de Dieu. Je m'enfuis sous les ailes de Dieu, sous son amour, sous ses promesses et sous sa fidélité, son caractère, etc. Et du coup, je continue de marcher dans son plan. Donc voilà quelques pensées que j'avais au sujet de ces trois mots, espérance, courage, patience. Que Dieu vous bénisse.